Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en latin en 1641, puis proposé en français dans une version revue par Descartes, ce recueil est un texte majeur de la métaphysique moderne. Les six méditations exposent moins un système déjà constitué qu'un exercice intellectuel progressif, le lecteur est invité à suspendre ses croyances, à examiner les conditions de la certitude, puis à reconstruire un savoir fondé sur des idées claires et distinctes. Le parcours conduit du doute sur les sens et sur le monde extérieur à la certitude du sujet qui pense, puis aux questions de Dieu, de la vérité, de la matière et de la relation entre âme et corps. Cette édition se distingue par la présence des objections et réponses où des interlocuteurs tels que Hobbes, Arnold et Gassendi mettent les thèses de Descartes à l'épreuve. Les quatre lettres finales prolongent notamment les enjeux liés à la connaissance et à l'union humaine de l'esprit et du corps. L'ouvrage vise ainsi à fonder la science tout en décrivant une discipline de la pensée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le doute méthodique comme instrument de refondation du savoir. La première méditation ne recommande pas un scepticisme définitif. Descartes utilise le doute comme une méthode volontaire et provisoire destinée à identifier une vérité qui résiste à toute contestation. Il commence par constater que les sens trompent parfois, ce qui interdit de leur accorder une confiance absolue. Il radicalise ensuite la difficulté avec l'argument du rêve si aucune expérience vécue ne permet toujours de distinguer avec certitude la veille du sommeil. Les objets ordinaires peuvent être mis en question. Enfin, la fiction du malin génie suppose une puissance capable de tromper même dans les opérations les plus simples. Cette dernière hypothèse ne décrit pas une croyance de Descartes, mais porte le doute à son maximum afin de tester la solidité des convictions restantes. La portée de cette démarche est décisive, elle déplace la recherche de la vérité depuis la tradition, les habitudes et les apparences vers un examen personnel des raisons de croire. Elle fournit aussi un modèle de vigilance intellectuelle. Toutefois, elle ne peut être confondue avec une règle pratique pour toute la vie quotidienne. Son domaine est la recherche des fondements de la connaissance, non la suspension permanente de toute décision ou de toute expérience commune. Deuxièmement, le cogito est la découverte du sujet comme première certitude face à la possibilité même de la tromperie universelle. Descartes découvre une certitude minimale mais irréductible, pour être trompé il faut penser, et pour penser il faut être. La formule connue sous le nom de cogito ne repose donc pas sur une déduction longue qui partirait de prémices incertaines. Elle exprime une évidence saisie dans l'acte même du doute. Chaque fois que le sujet doute, affirme, nie, imagine ou sent, son existence comme être pensant se manifeste. Cette certitude ne prouve pas encore le monde extérieur, ni la permanence d'un individu dans le temps, ni la fiabilité générale des représentations. Elle établit plus précisément que le moi se connaît d'abord comme une chose qui pense. Cette priorité accordée à la conscience explique pourquoi les méditations ont joué un rôle central dans la naissance de la philosophie moderne du sujet. Le texte oblige aussi à distinguer plusieurs plans, avoir une pensée est certain au moment où elle est vécue, tandis que la réalité de son objet peut demeurer incertaine. Les objections permettent de mesurer les difficultés de cette position, notamment sur la nature du moi et sur le passage entre expérience immédiate et connaissance plus étendue. Descartes y précise que la pensée comprend des actes variés et ne se réduit pas au raisonnement abstrait. Troisièmement, Dieu, les idées claires et distinctes. Et le problème de la garantie de vérité, après le cogito, Descartes doit expliquer comment sortir de la certitude solitaire du sujet pensant. Les méditations 3 et V développent des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Une voix part de l'idée d'un être infini présente dans un esprit fini. Descartes soutient que la cause de cette idée doit posséder une réalité suffisante pour en rendre compte. Une autre examine le lien entre essence et existence dans le concept de Dieu, conçu comme être souverainement parfait. Ces démonstrations ont suscité des critiques durables, mais leur fonction interne est essentielle. Dieu, conçu comme parfait et non trompeur, garantit que ce que l'esprit perçoit clairement et distinctement peut être tenu pour vrai. La vérité cartésienne ne se réduit donc pas à un simple sentiment de conviction, elle requiert une perception intellectuelle précise, séparée de ce qui pourrait la confondre. Puis une garantie métaphysique contre la tromperie radicale. Cette articulation expose aussi une difficulté célèbre, souvent appelée cercle cartésien. Si la fiabilité des idées claires et distinctes dépend de Dieu, comment démontrer Dieu sans déjà utiliser cette fiabilité? Les échanges avec les objecteurs rendent ce problème particulièrement visible. Il montre que le livre ne présente pas seulement des réponses historiques, mais met en scène les tensions constitutives de toute tentative de fonder la connaissance sur une certitude absolue. Quatrièmement, l'erreur humaine entre entendement limité et volonté illimitée, la quatrième méditation traite une question précise si Dieu est parfait et ne trompe pas. Pourquoi les humains se trompent-ils? Descartes refuse de faire de erreur une création positive ou un défaut imputable directement à Dieu. il analyse plutôt le jugement humain comme le résultat de deux facultés inégales. Entendement permet de concevoir, mais il est limité, beaucoup de choses ne se présentent pas avec une clarté suffisante. La volonté, en revanche, peut affirmer ou nier au-delà de ce que entendement saisit nettement. Erreur survient lorsque la volonté se prononce sur ce qui demeure obscur ou confus. Cette analyse donne au doute méthodique une conséquence normative, il faut suspendre son jugement quand les raisons disponibles ne produisent pas une évidence claire et distincte. La thèse est importante parce que Descartes ne décrit pas erreur comme une simple défaillance psychologique. Il en fait un problème de bon usage de la liberté intellectuelle. Le lecteur peut y trouver une distinction toujours utile entre comprendre une idée, imaginer une possibilité et tenir une proposition pour vraie. La solution cartésienne reste néanmoins exigeante, car elle suppose que la clarté et la distinction offrent un critère suffisamment déterminé. Les objections invitent précisément à examiner la portée de ce critère et les conditions concrètes de son application dans les sciences. En dernier lieu, la matière, la distinction de âme et du corps, puis leur union vécue, la sixième méditation propose deux thèses qui doivent être maintenues ensemble. D'une part, esprit et corps sont réellement distincts, esprit est une substance pensante, tandis que le corps relève de l'étendue, de la figure et du mouvement. Cette distinction fonde le dualisme cartésien et permet de concevoir la pensée sans la réduire à une propriété du corps. D'autre part, expérience humaine ne consiste pas en une simple juxtaposition de deux réalités séparées. La douleur, la faim, la soif et les sensations montrent que l'esprit est étroitement uni au corps. Descartes insiste ainsi sur le fait que le sujet ne perçoit pas les changements corporels comme un pilote observerait les avaries de son navire, il les éprouve de manière vécue. Cette seconde dimension corrige une lecture trop abstraite du dualisme. La distinction métaphysique ne supprime ni la dépendance pratique de l'esprit à l'égard du corps, ni la réalité des affects et des sensations. Les lettres ajoutées au recueil, notamment celles liées aux échanges avec Elisabeth, éclairent la difficulté de penser simultanément la séparation des substances et leur union. Ce point marque une limite féconde du système, la rigueur de la distinction conceptuelle rencontre ici la complexité irréductible de l'expérience humaine. En conclusion, ce volume convient en priorité aux étudiants en philosophie, aux lecteurs qui souhaitent comprendre les origines de la pensée moderne et aux personnes intéressées par les conditions de la certitude, de la conscience et de la connaissance scientifique. Il demande une lecture lente des arguments sur Dieu, sur les idées claires et distinctes ou sur le rapport entre âme et corps ne se laisse pas réduire à la seule formule du cogito. Cette exigence constitue aussi son principal bénéfice intellectuel. Le lecteur apprend à distinguer ce qui est perçu, imaginé, inféré et véritablement justifié, ainsi qu'à repérer les présupposés qui soutiennent une conclusion. Les objections et réponses renforcent fortement la valeur de cette édition. Au lieu de présenter Descartes comme une voix isolée et infaillible, elles exposent les objections de contemporains majeurs et les reformulations par lesquelles il défend ou nuance son projet. Elles donnent accès à une philosophie en débat, attentive aux difficultés de ses propres démonstrations, par rapport à une édition limitée aux 6 méditations. Ce recueil permet donc de suivre à la fois le mouvement intérieur de la méthode et sa confrontation publique avec des lecteurs critiques. Il se distingue aussi de nombreux manuels, il ne résume pas les concepts cartésiens après coup, mais fait éprouver leur construction progressive. Pour qui accepte cette densité argumentative, il demeure une entrée fondamentale dans la métaphysique, la théorie de la connaissance et les débats sur la relation entre pensée, vérité et expérience corporelle. Si vous souhaitez soutenir René Descartes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.